qui a commencé jeudi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et bien entendu, vous-même qui êtes ici, quelqu'un dit Amen. Bienvenue. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sans trop attendre, nous voulons accueillir le pasteur Omer Kabuya et sa femme qui vont venir ici. Gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Si vous avez goûté qu'hier c'était bon, aujourd'hui ça va être mieux. Et demain ça va être excellent. Si tu es marié en vue de te marier, faut pas laisser l'homme à la maison, il faut l'emmener. Ça c'est une affaire pour homme. Je voudrais merci de vous asseoir. L'assemblée pour son invitation, pasteur Nick, pasteur Jean-Marc, pasteur Magdala. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Elle n'a pas encore enfanté ce que Dieu a mis en elle. Voyez-vous, c'est que pendant des années, on t'a programmé à suivre. Mais Dieu te rend dans une saison où il te déprogramme pour te reprogrammer à conduire. De ton sein, il y a comme de l'eau qui sort. Mais tu penses que Dieu t'appelle simplement à chanter. C'est pas à chanter, c'est à conduire jusqu'à ce que l'onction prophétique puisse se manifester. Tu es dans la saison de déprogrammation pour une reprogrammation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, elle est en talons, elle est avec moi ce soir. Je voudrais céder la parole à mon épouse pour vous saluer. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle a une foi aveugle pour me suivre un peu partout. Mais en même temps, sans elle, je ne serais pas grand-chose. Parce que quand tu prêches comme ça, ta femme peut aussi te décourager de dire, mais ça, j'étais pas bon, laisse faire, t'as pas l'appel. Mais elle est là constamment et je voudrais bénir Dieu pour sa vie. J'ai l'habitude de dire qu'elle prêche mieux que moi. Et elle me dit non, mais moi je le crois. Et je vais juste utiliser la parole, vous saluer rapidement. Et j'en profite aussi pour saluer les différents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Et je lui cède la parole.
Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Comme mon mari le disait, je le suis un peu partout, comme une bonne épouse. Et ce que j'aime de lui, c'est qu'il est un mari, mais il est un homme de Dieu. Et ce que je vous appelle, femme qui est ici, c'est de reconnaître l'appel de Dieu dans la vie de votre époux et vraiment de l'encourager, de savoir le voir comme l'homme avec qui vous partagez votre maison. Mais quand il a un appel, et c'est un appel, c'est pas obligé d'être un appel dans le ministère, même dans ce qu'il fait dans son travail séculier, encouragez votre homme. Si votre mari va loin, vous irez loin, vos enfants iront loin. En tant que femme, nous sommes des colonnes, je vous encourage à prier, à vraiment être ces épouses, ces femmes que dans le proverbe nous dit, dans Proverbe 31, verset 30, que la beauté, la grâce est trompeuse, n'est-ce pas? Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc, ce ne sont pas vos parures extérieures, bien que nous devons prendre soin de nous-mêmes, mais c'est vraiment votre cœur. Alors, soyez.
Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons pouvoir prier et nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Et il est dans mon habitude de vous demander si c'est possible de prendre des notes ou si vous ne prenez pas des notes, bien d'acheter ou de vous procurer le matériel en arrière, parce que je crois que l'exhortation nous excite, mais l'enseignement nous libère. Souvent, lorsqu'on enseigne, beaucoup des démons fuient parce que la révélation arrive. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Prends contrôle de ce moment. Je suis un homme limité par le temps, limité par les circonstances. Mais viens parler, Seigneur. Au-delà de ce que moi j'ai préparé, tu connais ton peuple. Viens te glorifier. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons ce soir lire trois textes et je vais prêcher sur le sujet suivant, le roi sans trône, cinq disciplines qui vous garantissent de vous asseoir sur le trône. Hier, nous avons parlé comment est-ce que Dieu a qualifié David, comment est-ce que Dieu a choisi David. Nous avons parlé de la folie du choix de Dieu quand on le regarde dans un premier plan, mais lorsqu'on voit ce que David accomplit, nous comprenons que Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Et nous avons parlé que c'est l'attitude du cœur de David qu'il a qualifié pour le trône. David avait 5 choses en lui qui l'ont qualifié pour le trône. Mais ici, nous voulons regarder David sur un autre aspect. En parlant du roi sans trône, nous voulons parler de 5 disciplines qui vous garantissent non seulement de vous asseoir sur le trône, mais de demeurer sur le trône. Vous pouvez aussi dire 5 écoles par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous asseoir sur le trône. Et ces 5 écoles sont autant valables pour la femme que pour l'homme. Le premier texte sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 23. Et nous lisons du verset 13 au verset 2. 1 Samuel 23. Je ne suis pas couché, voilà. Du verset 13 au verset 15. La Bible dit ceci. Alors David s'éleva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informés que David s'était sauvé de Keïla, s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert et resta sur la montagne dans le désert de Juif. Mais Dieu ne livra pas David entre ses mais Dieu ne livrera pas ta vie entre les mains du diable. Voyant que Saül accompagne pour attenter à sa vie, rester dans le désert de Ziph, dans les forêts. Verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia la confiance de David. Merci. Il fortifia la confiance de David en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de 1 Samuel, toujours, chapitre 27, le verset 1 à 4. 1 Samuel 27, le verset 1 à 4. David se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » Verset 2. David s'éleva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille et David avec ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel, Abigaël de Carmel, femme de Nabal, informés que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. Le dernier texte que nous lisons ce soir sera dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 15 au verset 16. Deutéronome, chapitre 8, le verset 15 au verset 16. Si vous l'avez dit, nous y sommes. Et si vous l'avez dit, nous y sommes. Du moins, si vous l'avez à l'écran. Alléluia. Nous prenons le texte en plein milieu. Ma version peut varier de la vôtre, mais c'est bien la parole de Dieu à partir du verset 15. Je vais prendre les derniers bouts du verset, peut-être du verset 14. Il dit, « C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des endroits arides, sans eau, qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger de la manne inconnue de tes ancêtres afin de t'humilier, de te mettre à l'épreuve pour te faire du bien par la suite. » Quelqu'un dit à son voisin, « L'Éternel te fera du bien. »
Quelqu'un dit à son voisin, l'Éternel te fera du bien. Le roi sans trône, cinq disciplines qui nous garantissent le trône. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons commencé depuis hier à étudier la vie de David et c'est ce que nous ferons jusque demain. Et il n'y a aucun personnage de la parole de Dieu dont on connaît autant les détails de la vie privée que David. C'est comme si la Bible nous livre David en faisant une autopsie de lui. Parce que de David, nous connaissons sa vie émotionnelle, nous connaissons David comme un travailleur, David comme un leader, David, nous le connaissons comme étant un père de famille, nous connaissons David comme le musicien, David comme le poète, David comme le politicien, nous connaissons David comme un simple adorateur, nous connaissons David comme un écrivain qui va écrire 70 psaumes. Nous connaissons David comme un bâtisseur, le visionnaire qui aura la vision de bâtir le temple de l'Éternel. Mais nous connaissons aussi David comme un ami. Nous connaissons David comme cet homme, comme je disais hier, rempli de biceps, de triceps et des quadriceps, mais un homme qui sait aussi de temps en temps pleurer quand ça fait mal. Parce que la vie peut faire mal. Parce que la vie peut parfois nous cogner tellement fort qu'il n'y a pas de mots humains pour décrire la souffrance que nous avons. Et David cria, « Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta miséricorde. » Parce qu'un homme véritable, c'est un homme qui sait avouer aussi sa douleur et qui sait pleurer de temps en temps, même si c'est sous l'eau de la salle de bain. Mais nous avouerons que de temps en temps, il faut pleurer. Et David va pleurer. David, on va le connaître sous même... un homme qui, à un moment donné, va faire la dépression. Voyez-vous, toutes les tranches des sentiments par lesquels nous passons, David est passé par là. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et quelque part, il sera écrit dans les psaumes et dans les livres de Samuel, cantique de David, quand l'Éternel lui délivrait de toutes ses détresses. Je ne sais pas par quoi vous traversez aujourd'hui. Si vous êtes dans la dépression, ne vous inquiétez pas, vous êtes comme David. Ouais. Si vos enfants sont dans la rébellion, ne vous inquiétez pas, vous êtes comme David. David était loin, mais les enfants étaient rebelles. Tu peux être loin et vivre toutes sortes de tourments. Les circonstances qui t'entourent ne sont pas les définitions de l'onction qu'il y a sur ta vie. Amen. Parfois, on s'attend tellement à la perfection des gens. Et ce que j'aime de la Bible, ce que j'aime lorsque la Bible présente les personnages, la Bible ne nous présente pas des personnages qui sont parfaits, mais elle nous présente les personnages tels qu'ils sont, tels que le chant que nous chantons et qui a été rendu populaire par Billy Graham, tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang... verset pour moi, parce que si ce n'était pas à cause du sang de la croix, je ne serais même pas digne de me tenir devant vous. Et voyez-vous, la Bible va peindre David. Et ce que j'aime, c'est que normalement, si on écrirait l'histoire aujourd'hui de David, que David serait président d'un de nos pays, on écrirait que David était un super-héros. On écrirait David en le peignant dans sa perfection. On écrirait la version officielle de la vie de David. Mais en réalité, nous avons tous une version officielle de notre vie et une version non officielle. Quelle est la version non officielle de ta vie? Et la Bible ne se gêne pas de présenter David dans une version non officielle, une version non respectueuse. La réalité, c'est que quand tu me regardes prêcher, tu vois la version officielle, mais tu ne vois pas quand je lutte pour résister à un péché. Tu aimes la version officielle, mais il y a la version officielle de ma vie et la version non officielle. Quelle est la version non officielle des gens qui ont chanté ici tout à l'heure? Quelle est la version non officielle des gens qui ont joué la musique? Quelle est la version de ta vie que tu ne veux pas présenter aux gens, mais que le Saint-Esprit ne se gêne pas de présenter David en disant « tel que je suis ». dépressif, mais Dieu m'aime. Découragé, mais Dieu m'aime. Fatigué, mais Dieu m'aime. Mes enfants sont dans la rébellion, mais Dieu m'aime. Version officielle ou pas, Dieu m'aime. La version officielle, c'est la version de moi que je présente sur Facebook. La version officielle, c'est la version de moi que je présente sur Facebook sans acné, sans défaut de la peau. La version officielle de moi, c'est la version que je présente sur YouTube, sur Instagram. La version officielle qui dit que je suis ingénieur alors que je n'ai jamais terminé les études. La version officielle que je présente sur moi, ouais. La version officielle que je présente, c'est la version de mon église que je présente et je dis qu'il y avait 500 personnes à la réunion alors qu'il y en avait seulement 50. Et on appelle ça l'exagération pastorale. C'est la version officielle. La version officielle, c'est que je suis parti en mission en Haïti et qui avait la foule. Mais ce que la version officieuse ne dit pas, c'est que j'ai payé mon billet moi-même, j'ai demandé moi-même qu'on m'invite, et quand je suis parti, il n'y avait pas la foule, il y avait quelques personnes. La version officielle, c'est la carte de visite que j'aimerais tellement présenter de moi. J'aimerais tellement me présenter parfait, mais Dieu ne se gêne pas au travers de David de nous présenter un homme tel qu'il est. Voyez-vous, ce qui brise nos familles, nos mariages, c'est que les hommes n'aiment pas se présenter avec la version non officielle. Il sait dans une dispute qu'il a tort. Mais il doit présenter la version officielle. Femme, sois soumise. Version officielle. Mais dans son cœur, il sait que c'est son tour de demander pardon. Mais l'orgueil, c'est la version officielle qu'il présente. Mais Dieu nous présente David, un homme tellement masculin qu'il pleure. Un homme tellement masculin qu'il jeûne quand il a commis le péché. Un homme tellement masculin qu'il voit composer des cantiques. L'expression de la masculinité, ce n'est pas quand je ne pleure pas, mais c'est quand je pleure. Je suis assez homme pour assumer mes émotions. On aurait aimé qu'on nous présente un David parfait. J'aimerais me présenter parfait à mon épouse, mais elle connaît la version officielle et la version non officielle. C'est elle qui peut dire vraiment si j'ai l'appel ou si je n'ai pas l'appel. Quelle est la version officielle de ta vie? Est-ce que je peux aller plus loin? La version officielle, c'est que tu dis à ton fiancé, je n'ai pas connu d'homme avant toi, ou bien j'en ai connu deux, avec un zéro au bout. Mais la version officielle dit deux. Quelle est la version officielle de me présenter comme quoi? Je fais 70 000 par année. En réalité, tu fais 35 000. Quelle est la version officielle? Je connaissais une sœur, ou plutôt, pour ne pas la citer, une dame était fiancée à un homme et l'homme la voyait toujours maquillée, jolie, présentable. Version officielle. La version qui n'est pas en discount chez Super C. Et un jour, l'homme arrive sans prévenir. Et toc, 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 il tourne à la porte. Et la femme ne savait pas que c'était lui. Et elle l'ouvre. Et l'homme se rend compte que ce n'est pas la version officielle. Et il ne l'a pas reconnue. Il dit, est-ce que je pourrais parler à un tel? Mais il dit, c'est moi. Tôt ou tard, la version non officielle va se manifester. Et le Saint-Esprit, en nous présentant David, nous présente un homme dans sa version officielle et non officielle pour dire que, qu'importe mon passé, Dieu peut m'utiliser. Qu'importe ce que je traversais, Dieu peut m'utiliser. Qu'importe combien je suis tombé, j'ai encore de l'utilité entre les mains de Dieu. Qu'importe comment je me suis éloigné, j'ai encore de l'utilité entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas besoin que je lui présente ma version officielle. Il connaît ma version non officielle. Dieu a besoin que je me présente à lui tel que je suis. Comme David dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. » Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible va nous présenter David comme étant un homme courageux, un homme qui connaît des hauts et des bas, un homme. Et c'est fou comment est-ce que, quand on nous demande comment ça va bien. Tu es en dépression? Non, ça va. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous connaître dans toutes nos versions, qu'on se présente à lui, dans toutes nos versions, sans maquillage, sans tresse, sans extension, sans restriction. Mais je me présente à Dieu parce qu'il m'a aimé avant que je ne sois créé. Et David dit que dans son livre était écrit tous les jours qui m'étaient réservés à vivre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils, l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Dieu t'aime. Je suis venu dire à un homme ce soir, Dieu t'aime dans ta version officielle et ta version non officielle. Dieu t'aime. Amen. Dieu aime cette église dans sa version officielle et sa version non officielle. Amen. Et Dieu va appeler David et Dieu va oindre David. Et David, normalement, s'attend à ce que Dieu puisse directement, quand il a oint, le mettre roi. Mais il y a un problème, c'est que Saül est sur le trône. Et l'ambiguïté de l'appel, c'est que alors que David a les yeux fixés sur le trône, en disant que c'est maintenant, Dieu a les yeux fixés sur le processus qui va l'amener au trône. Parce que l'important n'est pas d'arriver au trône, mais l'important c'est d'être préparé afin de s'asseoir et de demeurer sur le trône. Voyez-vous, quand l'avion est sur terre, l'avion n'a aucun danger. L'avion est confortable, la loi de la gravité maintient l'avion au sol. Mais si l'avion monte à 10 000 pieds d'altitude, l'avion a la difficulté à se maintenir. Pourquoi? Parce qu'au sommet, les vents sont violents. Donc, on doit s'assurer que le fuselage de l'avion peut résister, que le fuselage de l'avion le qualifie à se maintenir dans les hauteurs. Parce que l'important, ce n'est pas de décoller, mais c'est quand on arrive dans les hauteurs de se maintenir. On doit s'assurer que l'avion obéit aux lois de la thermodynamique, que l'avion obéit aux lois de la poussée, qu'il n'y a pas de trou dans le fuselage. Parce qu'un petit trou sur terre ne fait rien. Mais le petit trou que tu négliges sur la terre, le petit trou qui est négligé quand l'avion est encore sur le sol, quand ce trou arrive, quand les vents sont violents, le petit trou se déchire. Alors Dieu va oindre David. Dieu lui dit, tu es roi. Mais il se retrouve un roi sans trône. Que faire lorsque tu te retrouves avec un don de Dieu? Que faire lorsque tu te retrouves avec un appel de Dieu? Que faire lorsque tu te retrouves avec l'onction de Dieu, la capacité de Dieu, plus qualifié que ceux qui t'ont précédé? Tu es meilleur en mécanique, meilleur en dessin. Et tu vois les gens travailler, tu sais que tu peux occuper la position, mais que Dieu ne te donne pas la position. Je suis venu parler aux rois et aux reines sans trône. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as l'appel et que tu n'as pas encore ton église, ton ministère? David se retrouve avec le malaise de l'onction royale sans le trône. Mais Dieu n'est pas intéressé à lui donner le trône. Dieu n'est pas intéressé parce que Dieu a vu Saül arriver au trône non préparé et Saül être une catastrophe nationale. Et Dieu est plus intéressé à le préparer qu'à le relâcher. Quelqu'un dit amen. Dans ton temps, le temps que Dieu va passer avec David, Dieu sera plus préoccupé. Nous avons vu hier que David a déjà le cœur, David a déjà les aptitudes nécessaires, mais l'aptitude n'est pas la discipline. Amen. Un auteur célèbre, John Maxwell, dit que l'attitude détermine l'altitude. Mais j'aimerais vous dire que l'altitude est une bonne chose. Mais ce qui nous maintient dans l'altitude, c'est la discipline que nous avons développée. Et Dieu va engager David dans un processus pour le préparer à régner, pour le préparer à être le meilleur. Le processus est plus important que le trône. Dieu avait déjà vu un homme comme Samson mal finir. Et Dieu était intéressé à préparer David. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'a remarqué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, que Dieu n'est pas indifférent à tes circonstances, mais Dieu t'a remarqué. Dieu n'est pas aveugle. Malgré la petitesse de ta vie, Dieu t'a remarqué. Malgré les circonstances que ce ministère traverse, Dieu vous a remarqué. Dieu n'est pas indifférent. Malgré l'humiliation que certains ont subie, Dieu t'a remarqué. Dieu n'est pas indifférent aux hommes. Et Dieu prend David derrière le brebis et Dieu commence à le préparer. Dieu le prend comme une masse informe. Dieu lui donne d'abord l'onction, mais Dieu lui dit, tu n'es pas prêt pour le trône. Parce que Dieu a vu Saül mal finir. Le roi sans trône. Alors que David est intéressé par le trône, Dieu est intéressé par le processus. Alors que David est intéressé par le trône, combien d'entre nous, nous voulons tout de suite la grande entreprise, le grand ministère, nous voulons tout de suite la foule, mais nous n'avons pas les capacités psychologiques, les capacités émotionnelles, la discipline, la rigueur de nous lever et de continuer à faire la même chose, que ça nous plaise ou pas, de prêcher quand ça ne te tente pas, de prêcher quand tu es fatigué, de prier quand personne n'est là, de prêcher quand il n'y a pas la foule, de faire même quand tu n'as pas envie. Alors que David convoite le trône, Dieu est intéressé au processus et à la discipline qu'il a besoin afin non d'arriver au trône, parce que Dieu peut l'amener du jour au lendemain sur le trône, comme Dieu l'a fait pour Saül, mais Dieu est intéressé à le discipliner afin que le trône ne soit pas un terrain de suicide du ministère. Afin que le trône ne soit pas un terrain de chute, mais que le trône soit le terrain où David peut se stabiliser, se maintenir, où David peut arriver à l'accomplissement de sa destinée. J'aimerais te dire ce soir, touche quelqu'un et dis-lui, Dieu est en train de te préparer. J'ai dit, touche quelqu'un, dis-lui, Dieu est en train de te préparer. Tu as l'impression que tu tournes en rond, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as l'impression que l'enfer est déchaîné contre toi, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as l'impression que rien ne bouge, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as l'impression que les démons de l'enfer sont déchaînés contre toi, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as perdu l'emploi, mais Dieu est en train de te préparer. Tu es découragé, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as perdu la voiture, mais Dieu est en train de te préparer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le diable est un menteur. Derrière l'épreuve que tu vis, il y a la main de Dieu. Il y a la préparation de Dieu. Derrière les attaques du diable, les humiliations, il y a la main de Dieu. Derrière le divorce, la main de Dieu est en contrôle. Dieu te contrôle au nord. Dieu te contrôle au sud. Dieu te contrôle à l'est. Dieu te contrôle à l'ouest. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit simplement, allons de l'autre bord. Il a dit simplement, allons de l'autre bord. Oh mon frère, ma soeur, le processus du trône peut faire mal, mais c'est une préparation à l'élévation. Je suis venu parler à un homme ce soir qui dit que Dieu m'a oublié dans les campagnes
de Bethléem. Je suis venu parler à un homme ce soir qui dit que je ne vois rien de la part de Dieu. Je suis venu te dire que Dieu est en train de te préparer. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je dis quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. J'ai besoin des hommes qui poussent des cris de joie devant Dieu. J'ai besoin des hommes qui expriment leur joie devant Dieu. Dieu n'est pas fatigué de toi. C'est vrai que tu as chuté plusieurs fois dans le même péché, mais Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu n'est pas fatigué de toi. La Bible dit qu'il ne dort pas, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. C'est lui qui garde Israël. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David a expérimenté Dieu et il pouvait dire que Dieu est pour nous un abri, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, écument au fond des mers. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu la secourt dès le matin. Des nations s'agitent. Il fait entendre sa voix. Éternel, défends ma cause. Secours-moi. Combat ceux qui me combattent. Saisis le grand et le petit bouclier. Oh Dieu, lève-toi pour moi. Oh Dieu, lève-toi pour cette église. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Je suis venu te dire qu'au bout de chemin par lequel tu traverses, tu pousseras des cris de joie. Qui t'a dit d'arrêter d'acclamer? Je n'ai pas dit acclame-moi, j'ai dit acclame Dieu. J'ai dit que ce soir, nous allons accélérer les choses. Il faut acclamer jusqu'à ce que les chaînes tombent. Il faut acclamer jusqu'à ce que les chaînes tombent. Il faut acclamer jusqu'à ce que le désert se change en étant d'eau. Il faut acclamer jusqu'à ce que les forteresses tombent. La Bible dit qu'Israël est autour de la muraille de Jéricho. Ils se sont mis à pousser des cris de joie. La Bible dit que la muraille de Jéricho l'a crasé. Jéricho est tombé à cause d'un cri de joie. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. On ne fait que commencer. Le processus qui m'amène au trône fait mal, mais il est nécessaire. Je suis venu dire à un homme ce soir, Dieu ne t'a pas oublié. Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu as été déçu à un moment donné, mais Dieu ne t'a pas oublié. David, avec l'onction, est pourchassé par Saül comme un chien. Et l'appel devient la frustration de sa vie. Pourquoi me donner l'appel si je dois souffrir? Pourquoi me donner l'appel si je dois lutter avec l'homosexualité? Pourquoi me donner l'appel si je lutte avec la pornographie? Ton Saül, c'est lui. Comment il s'appelle, celui qui te poursuit? La frustration entre l'onction et ce avec quoi je lutte. Seigneur, tu as la puissance de me délivrer, mais tu ne me délivres pas. Quand je lis dans ta parole, je vois que tu es omniscient. Je vois que tu es omnipotent. Je vois que tu fais tout dans le ciel et sur la terre. J'ai l'onction, mais je lutte. La frustration de l'onction. La frustration de l'onction. Et peut-être que tu dis, j'étais même mieux avant que j'aie cette idée. Je n'avais pas de problème. Peut-être que tu dis, j'étais même mieux quand je n'avais pas l'église et que je travaillais encore pour Walmart. Ouais, ouais. la frustration de l'onction, la frustration de l'appel. J'aimerais faire autre chose, mais tout ce que mon cœur me pousse à faire, c'est ça. J'aimerais m'arracher le cœur pour être un homme comme les autres. Mais quand je dors la nuit, tout en moi me pousse dans une seule direction. Et cela rend David tellement fou que David dit quelque part, il dit, quand je pense à toi pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, sur ma couche. J'aimerais faire autre chose, mais je ne peux pas. Et Jérémie dira que quelque part, il dit que si je dis que je veux me taire, je ne peux pas me taire parce qu'il y a en moi comme un feu qui brûle et je ne peux pas me taire. À moins que tu aies reçu un appel dans un domaine particulier, tu ne pourras jamais comprendre la lutte et le conflit qu'il y a en moi. J'aimerais être comme les autres, mais je ne peux pas être comme les autres. J'aimerais vivre comme les autres, mais je ne peux pas vivre comme les autres. C'est vrai que je tombe comme eux, mais je me relève mieux que eux. J'aimerais être différent, mais je ne peux pas. J'aimerais aller clubber, mais je ne peux pas. J'aimerais fumer, mais je ne peux pas. Il y a quelque chose en moi. Non, que parfois j'aime, mais que parfois m'énerve, parce que ça m'empêche d'être comme les autres. Et j'aimerais être comme les autres. Être indifférent à la maison de Dieu, mais je ne peux pas à cause de l'huile qui a été versée sur moi. Et l'huile me fait du bien parce qu'elle me garantit un avenir, mais elle me frustre aujourd'hui parce que je ne parviens pas à atteindre ce que je vois dans mon esprit. Alors, je suis frustré par le présent parce que je vois l'avenir et je suis dans le dilemme de me dire, est-ce que je sacrifie aujourd'hui pour demain ou je vis aujourd'hui et puis tant pis pour demain. J'ai l'onction, mais je n'ai pas encore le trône. Et il y a une bataille en moi que je ne peux pas expliquer en mots humains. Le roi sans trône. Je suis venu parler aux rois qui n'ont pas encore le trône. Ça me fait mal, mais je continue à le faire. Et Dieu va engager David dans 5 disciplines pour le préparer au trône. Je vais aller rapidement. La première discipline dans laquelle ou la première école dans laquelle Dieu engage David, c'est l'école ou la discipline de la solitude. Il doit apprendre à rester seul. Parce que Dieu sait très bien, psaume 46, verset 10, Lamentation, chapitre 3, verset 25, il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu l'engage dans l'école ou la discipline de la solitude, parce que Dieu sait que demain il sera leader. Et s'il n'apprend pas à rester seul, il risque de couler. Parce que Saül a coulé, pourquoi? Parce que les hommes s'éloignaient de lui et il allait rester seul. Ça lui a coûté le trône. Et Dieu dit, je ne veux pas que moins commette cette erreur. Et la solitude de la prairie dans laquelle David doit rester seul pendant des nuits semble aujourd'hui être une injustice, mais c'est une préparation pour demain. Bien souvent, ce que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est la préparation. Et des années plus tard, Dieu d'abord met David dans la solitude pour que David soit avec Dieu. Mais Dieu permet la solitude de la prairie dans la vie de David pour que David apprenne de temps en temps à se recalibrer. Vous savez, le GPS, quand tu sors de parcours, il dit quoi? Recalibration. Lorsque David arrive à Tsiglag et que les hommes parlent de le lapider, quand la Bible dit que David se fortifie en l'Éternel, en réalité, David se récalibrait. Quand tu apprends à rester seul, quand tu apprends, Dieu t'apprend la discipline de la solitude. Parce que plusieurs personnes ne supportent pas la solitude. Et une des preuves, tu vas voir que son Facebook status là, a au moins 5 à 10 updates par jour. Mais tu ne peux pas rester seul, télévision éteinte, juste toi tout seul, silence. Mais il faut que tes pensées vagabondent, ça vagabonde à gauche, à droite. Et Dieu emmène David dans l'école de la solitude, car l'écoute de Dieu se développe dans l'école de la solitude. Quelqu'un dit amen. Deuxièmement,
Dieu amène David dans l'école de la solitude, pardon, sous point du premier, pour que David apprenne à se reposer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Donc Dieu, dans le processus de ta préparation, la première école dans laquelle il t'emmène, c'est l'école de la solitude. Et dans cette école-là, Dieu va souvent permettre que tu sois incompris, qu'on fasse des fêtes d'anniversaire dans lesquelles on ne t'invite pas, pour que tu apprennes la discipline de la solitude. C'est dans la solitude que David a appris à composer des chants. C'est dans la solitude que David a appris à prier. C'est dans la solitude que David a appris la discipline. C'est dans la solitude. La solitude en soi n'est pas une mauvaise chose lorsque tu la regardes dans la perspective de Dieu. Mais c'est aussi un soir, alors que des années plus tard, des hommes d'Israël était parti à la guerre, David était resté seul. Il a eu le test d'une école dans laquelle Dieu l'avait fait passer des années. Des années plus tard, le test est venu. C'était le test de Bathsheba. Et David avait du mal à supporter la solitude. Il a échoué le test. Ce que tu vis dans ta base, souvent, au sommet, il y aura le test. Quand Dieu amène quelqu'un et Dieu a donné une vision claire et puis au départ tu es pauvre, généralement c'est parce que plus tard Dieu va t'enrichir. Mais Dieu t'apprend à gérer peu. As-tu déjà été au Super C faire des achats pour 10 dollars pour la semaine? Le même 10 dollars... Tu n'as pas regardé les circulaires, hein? Tu es rentré juste au Super C. Famille de 5 enfants. Il faut faire des courses pour la semaine. Mais souvent, Dieu va le permettre parce qu'au sommet, Dieu va t'enrichir, mais il veut que tu apprennes à gérer peu afin que quand tu auras beaucoup, tu sais non seulement valoriser, mais tu sais gérer. Voyez-vous, quand Dieu permet quelque chose dans ta fondation, le test viendra au sommet. Quelqu'un dit amen. Et quand le test de Bathsheba arrive, on se rend compte que David avait du mal à digérer la solitude. Deuxième discipline que Dieu développe. Est-ce que vous êtes bénis? La deuxième discipline que Dieu va développer, c'est la discipline de l'impopularité ou de l'obscurité. David est dans l'obscurité, dans la campagne de Bethléem. Comment ça se fait qu'un jeune garçon qui peut tuer le lion, qui peut tuer l'ours, moi il me semble que si je suis son père, je veux le prêter à quelqu'un de puissant. Mais son père dit que non, tu vas continuer à garder les brebis, tu vas continuer à être en arrière. David est impopulaire, tellement impopulaire que quand Samuel vient pour oindre le prochain roi, il est tellement impopulaire qu'on ne s'occupe pas de lui. Et cela semble être une injustice. Les injustices de la fondation nous préparent pour les tests du sommet. Voilà pourquoi j'ai appris à ne pas toujours aller partout criant comme si j'étais une victime. Mais j'ai appris à dire que Dieu sait ce qu'il fait. Tu as perdu ton emploi, Dieu sait ce qu'il fait. Ta femme t'a quitté, Dieu sait ce qu'il fait. Ton dossier peut-être d'immigration ne marche pas, Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu sait ce qu'il fait. Et un jour, David arrive sur le champ de bataille et il tue Goliath. Quel exploit! Et quand il sort du champ de bataille, imaginez-vous, il sort de l'adolescence, il vient de tuer Goliath et les femmes entonnent un cantique. David, Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Il était un inconnu, un impopulaire, un homme obscur et soudainement, vous savez, quand tu fais un exploit ou quand tu as de l'argent, il paraît que ça te rend beau. On va trouver peut-être tes oreilles cute. Et David soudainement sort et les femmes chantent. Mais c'était le test par rapport à l'impopularité qu'il avait vécu pendant des années. Et souvent, quand tu es dans ta fondation, tu vis certaines choses et tu détestes que Dieu te fasse passer par là. C'est pour ça que dans le texte de Deutéronome que nous avons lu, Dieu dit à Israël, j'ai été fait passer par là, j'ai été fait passer par le désert, afin que tu apprennes à dépendre de moi. Voyez-vous, David connaît l'impopularité et soudainement une propulsion arrive. Et si jamais David s'était en état orgueilleux, Saül l'aurait abattu tout de suite. Mais David est resté calme. Il donne le crédit à Saül. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de te faire connaître la discipline de l'impopularité? Tu as bien chanté, le pasteur il monte devant, il ne t'occupe même pas, il continue à faire ce qu'il avait à faire. Tu as prié, les malades sont guéris, ils m'ont dit c'est bien, mais continue à être musicien. Et toi tu dis non, dans cette église-là on ne me reconnaît pas. C'est vrai, on ne te reconnaît pas, on te reconnaîtra quand Dieu dira que c'est ton temps. Troisième discipline que Dieu développe dans la vie de David, c'est la monotonie. Tous les jours, il doit aller dans cette prairie-là, il doit garder des moutons, et Dieu sait que les moutons ne sont pas très intéressants. Ce n'est pas au moins comme l'âne de Balaam qui pouvait une fois dans sa vie parler, mais il doit garder ses moutons, les brebis de son père. Mais ce n'est pas tellement les brebis dans la monotonie qui est intéressant, c'est plutôt le paysage qui est toujours le même. Un jour, je conduisais, je venais de d'Edmonton, et puis j'avais toujours entendu que Saskatchewan, c'est plate. Et puis l'expression c'est plate, tu ne la comprends pas jusqu'à ce que tu arrives à Saskatchewan, parce que c'est plat. Le champ, c'est plat. Et tu as l'impression, parce que c'est plat, que tu n'avances pas. Mais dans la monotonie, Dieu nous fait avancer. La monotonie n'est pas l'expression que Dieu ne travaille pas. Mais dans l'école de la monotonie, Dieu nous apprend à ne pas fonctionner avec nos émotions, mais par la foi. Romains chapitre 4, le verset 16 dit, c'est pourquoi les héritiers de la promesse le sont par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc dans l'école de la monotonie, David, avec l'onction royale, doit continuer à croire que Dieu l'a appelé, même si personne ne passe dans le chemin, même si personne n'acclame. L'école de la monotonie va le qualifier. Pourquoi? Parce que le test viendra quand Saül va le poursuivre pendant environ 10 ans. C'est monotone, c'est la même épreuve, c'est la même chose qui arrive. Mais l'école de la monotonie lui apprend. Il y a une belle image dans un des films que mon épouse aime, Karate Kid. Si vous l'avez regardé, ce n'est pas un péché, lever la main. Ok. Dans le film Karate Kid, vous allez voir que à un moment donné, quand le jeune homme veut apprendre à faire du karaté, qu'est-ce qu'on lui apprend? Ok, je vois que plus on... Et puis, il a l'impression que la monotonie fait qu'il n'a rien appris. La monotonie crée la frustration en lui. Mais un jour, alors qu'il se plaint à son maître lui dit, ça fait longtemps que je suis en train de t'apprendre. Ça fait longtemps que je suis en train de te préparer. Tu as l'impression que tu tournes en rond, mais Dieu est en train de te préparer. Tu as l'impression que tu tournes en rond, mais Dieu est en train de te faire avancer. Dieu, alléluia, te fait avancer. Tu as l'impression que, mais je prêche le même message, je chante toujours la même chose, mais tu ne sais pas que Dieu t'apprend à fonctionner sans les émotions. Mon bien-aimé, parfois quand j'arrive, je prêche, les gens ne disent pas « Amen », je dois croire en moi plus que les gens. Hein? Parfois tu prêches, personne ne dit « Amen », je dois croire en Dieu, ou bien je regarde mon épouse et ça va. Je dois croire que Dieu m'a appelé, je dois m'appuyer sur Dieu. Et dans l'école, et plusieurs personnes abandonnent, pourquoi? Ça fait 5 ans qu'on fait l'église, on est toujours le même nombre, ça fait 10 ans qu'on fait ça, la compagnie n'avance pas. Combien d'entreprises, mon frère, as-tu déjà fermé à cause de la monotonie? Et dans la monotonie du paysage, David doit apprendre à s'appuyer sur Dieu. Et quand Saül le poursuit pendant 10 ans, la monotonie de l'épreuve ne l'empêche pas de continuer à s'appuyer sur Dieu. La plupart des psaumes que David a composés, il les a composés dans la monotonie. Numéro 4, et je vais aller rapidement. La quatrième discipline que Dieu développe dans David, c'est la discipline de la réalité, ce qu'on appelle en anglais « reality check ». David doit garder des moutons, et ces moutons-là, comme vous le savez, les moutons, c'est les êtres les plus désordonnés. Et David doit les garder, David doit les gérer dans les beaux temps, dans les mauvais temps. David doit gérer les moutons quand ils sont malades, les moutons quand ils sont en bonne santé. Et c'est se demander, mais pourquoi Dieu permet ça? Parce que plus tard, David doit gérer un peuple. Oui, oui. Ce que tu refuses de gérer aujourd'hui, c'est un échantillon de ce que tu dois gérer au sommet. Le ministère que tu refuses à l'école, c'est une opportunité d'entraînement que tu refuses. C'est facile de vouloir servir quand c'est plein. C'est facile de vouloir servir quand c'est grand. Mais comment peux-tu gérer quand c'est grand, quand tu ne sais pas gérer quand c'est petit? C'est facile de vouloir venir prêcher quand il y a la foule. Mais est-ce que tu peux avoir le même tonus, la même qualité quand il y a que quand il y a la foule? Et Dieu garde David derrière les brebis. Frustrant, il a l'onction, mais il n'a pas le trône. Qu'est-ce qu'un roi avec l'onction fait derrière les brebis? Le roi sans trône. Et David est assis là, et la Bible dit qu'il doit gérer. Pourquoi? Plus tard, le test viendra. Pourquoi? Parce que David doit arriver à gérer 400 mécontents qui arrivent à lui. Plus tard, le nombre va grandir, mais ceux qui viennent à lui, c'est des gens frustrés, des gens mécontents. Et David a été aguerri à traiter les problèmes des moutons qui représentent les échantillons. Et souvent, on dit que, oui, tu peux dire que je veux me séparer de mon mari, de ma femme, je veux me trouver une autre femme. En réalité, c'est que tu n'as pas solutionné avec elle. Ça va te suivre, parce que le problème, en fait, il est en toi aussi. Amen. Je termine en disant, le dernier école ou test par lequel Dieu fait passer David, est-ce que vous êtes bénis? La dernière test, la dernière discipline par laquelle Dieu fait passer David, c'est la discipline du discernement. Parce que tu ne peux pas arriver au sommet si tu ne sais pas discerner ce qui est bien du mal. En grec, on parle que le mot discerner, c'est le mot diakris ou bien diakrino, qui veut dire séparer, faire la distinction, apprendre à discerner, essayer, décider, déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion, retirer, déserter, s'opposer, lutter, soutenir. Le discernement, c'est ce qui permet de se maintenir. Je vais vous donner un exemple. Il y a un peuple qui vit dans le désert, ou bien les peuples qui vivent dans les déserts. Ils peuvent marcher avec toi dans le désert. Lui, il peut regarder la direction du vent et les dunes. Il va te dire, le chemin est par là. C'est le discernement. Tu viens d'Haïti, tu peux aller dans la forêt avec quelqu'un de la forêt. Il va te dire, reste calme. Mais toi, tu es un Canadien. Tu dis, mais non, mon cerveau me dit. L'analyse mathématique quantitative me dit, mon frère, ici, c'est pas ça. Ici, ce qui marche, c'est le discernement. Parce que pendant des années, David garde les moutons et il a appris à discerner quand le lion arrive. Il a appris à discerner quand l'ours arrive. Ce qui va te sauver à un moment donné, c'est ta capacité non d'avoir l'onction. Pour discerner, ça ne prend pas l'onction, ça prend l'expérience. Et David s'est discerné quand on lui dit, « Oh, Dieu a livré Saül entre tes mains. » Il dit, « Non, c'est le discernement, mais Dieu n'a pas livré. » Ça, c'est la chair. Le discernement, lui, quand on lui livre Saül une deuxième fois, on lui dit, « Dieu a livré Saül. » Il dit, « Non, Dieu n'a pas livré. » La troisième fois, on lui dit, « J'ai tué Saül. » Il est supposé se réjouir. Mais le discernement lui garantit le trône parce que David peut lire au travers de la mesquinerie des hommes. Voyez-vous ce qui nous empêche d'arriver sur le trône et de nous asseoir? C'est le manque de discernement. Le manque de discernement fait que tu signes un contrat, mais ton cœur te dit, ne signe pas. Mais pendant les périodes faibles, tu n'as pas appris à exercer ton discernement. Tu achètes une maison, ton cœur te dit, ne signe pas. Mais quand tu regardes, tous les signes te montrent que tout va bien, mais quelque chose, ou bien ta femme, qui n'a pas d'onction, te dit, ne signe pas. Tu dis, mais je suis un homme. Le marché boursier me dit, oh frère, frère, je suis un homme. Frère, quand il vient le temps de discerner, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est question de survivre. Et beaucoup d'hommes ont entraîné leurs femmes dans des catastrophes financières parce qu'en termes de discernement, c'est des enfants. Et David va développer dans la prairie de Bethléem qui semble un endroit détestable, il va développer le discernement. Le roi sans trône, cinq disciplines pour arriver au trône et s'y maintenir. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort ce soir? J'aimerais que, avant de terminer, est-ce que je peux t'inviter juste à te tourner vers deux, trois personnes? Dis-lui, qualifie-toi pour le trône. Dis-lui, qualifie-toi pour le trône. Je sais que l'enseignement est lourd, mais il est nécessaire parce qu'il sauve ce soir des vies. Je vais juste prier pour vous et laisser l'homme de Dieu venir. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Et je laisse l'homme de Dieu venir. Seigneur, j'ai livré ta parole telle que tu l'as mise dans mon cœur. Il y a des rois en ces lieux, des hommes qui vivent la frustration d'avoir la vision mais non les ressources, d'avoir la vision mais qui ne voient pas cette vision se réaliser et qui ne voient pas qu'en réalité les prairies de Bethléem sont un lieu de préparation. Et plusieurs ont abandonné des visions, plusieurs ont abandonné des idées d'entreprise que tu avais injectées en eux, plusieurs ont abandonné tant de choses. Mais nous prions, Seigneur, qu'au cours de cette fin de semaine, que des renoncements soient faits, que des décisions soient prises de retourner à l'entraînement de Dieu. Ce que tu prépares pour nous dans la fondation, c'est pour que nous puissions résister aux tests, au sommet. Seigneur, bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. Une belle main d'acclamation, Seigneur Jésus, pour sa parole. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre un temps pour vous parler d'une chose très, 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 très importante. Et ça commence par un témoignage. Il y a un bien-aimé, pendant que l'église vient de déménager, comme vous le savez, et l'église